Il y a exactement 4 ans demain, Paris était frappé par des attentats meurtriers commandités par l'État islamique. Vous savez, notamment, on a frappé au Bataclan, la salle de spectacle. Caroline Langlade était au Bataclan ce soir-là. Elle est cofondatrice de l'association Life for Paris. Et évidemment, elle est au bout du fil pour témoigner. Madame Langlade, bonjour, bonsoir.
Bonjour.
D'abord, dites-moi, Madame Langlade, 4 ans plus tard, vous étiez au Bataclan. Comment allez-vous maintenant?
Écoutez, c'est une question qui est compliquée, on va dire. Il y a des jours où ça va, d'autres où ça va moins bien. Ça dépend des difficultés de la vie auxquelles on doit faire face. On va dire que la vie est difficile pour chacun d'entre nous, qu'on ait vécu ou pas les attentats. Mais du coup, notre taux de tolérance, notre taux de courage, de force est peut-être plus limité qu'avant. Donc, on a parfois plus de mal à faire face aux épreuves de la vie.
Dites-moi, Madame Langlade, vous avez survécu à cette soirée-là. Vous étiez caché dans une loge avec d'autres otages, d'autres personnes qui étaient au Bataclan. Ensuite, la vie reprend. Comment on se reconstruit? Comment on reprend une vie normale après ces événements-là?
Alors, en fait, la vie ne reprend pas. Je crois que c'est ça la grosse difficulté à accepter. Et c'est ça qui est très douloureux et qui est très compliqué à comprendre pour les gens de l'extérieur. La vie, elle ne s'est pas arrêtée, en fait. Elle a twisté, elle a pris un virage à 360, mais elle a continué, en fait. Donc on n'aura pas de vie d'avant, parce qu'il n'y a pas de vie d'avant et de vie d'après, on va dire. Mmh. Ça reste notre vie. Il faut juste apprendre à recomposer autour avec des choses nouvelles que sont le traumatisme, que sont le stress post-traumatique, que sont le corps qui peut avoir une réaction face au stress, que sont les problématiques corporelles pour les gens qui ont été blessés physiquement par balles, qui ont perdu des membres de leur corps, ou des gens qui ont carrément perdu des personnes de leur entourage. Donc c'est avec tout ça qu'il faut recomposer, et c'est pas simple, on va dire, mais je crois que tout le monde essaye de s'y atteler autant que possible.
Et évidemment, la France s'est mobilisée après ces attentats du 13 novembre 2015. Est-ce qu'il y a eu des régimes, des programmes spéciaux pour aider les victimes comme vous qui ont été témoins de l'horreur?
Alors, en France, on a la chance d'avoir eu quelqu'un qui a été vraiment la précurseuse, qui s'appelle Françoise Rudetsky, grâce à qui on a aujourd'hui beaucoup de droits en tant que victime du terrorisme. À l'époque où elle a été frappée par l'attentat du Grand Véfour en 1985, il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas de droit pour les victimes de terrorisme, pas de reconnaissance légale. Elle a construit tout ça pendant plus de 30 ans, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a ces dispositifs à notre portée. Après, la difficulté, c'est de pouvoir y accéder, parce que on n'est pas victime professionnelle, donc on ne sait pas quel droit est-ce qu'on peut demander, faire valoir. Donc pour ça, le président François Hollande avait mis en place un secrétariat d'État au mois de février 2016, qui était géré par Juliette Méadel, qui a fait un très très beau travail auprès des victimes pour essayer d'améliorer les dispositifs d'aide aux victimes qui étaient déjà existants, mais qu'il fallait perfectionner. Quand on a changé de présidence, Emmanuel Macron, le président, a enlevé en fait ce secrétariat d'État, puis finalement l'a remplacé par une délégation interministérielle, mais que j'estime être un vrai recul, parce que beaucoup moins de moyens, parce que beaucoup moins dans l'aspect politique, et donc avec un champ d'action qui est beaucoup plus limité, en fait.
À chaque 13 novembre, l'anniversaire, cette date est soulignée. Est-ce que le fait que ce soit souligné comme ça, de façon assez solennelle, un peu partout, pas seulement à Paris, exemple, on est en train de faire une entrevue, vous et moi, est-ce que ça vous aide à penser certaines blessures?
Alors, en fait, très honnêtement, moi personnellement, pas vraiment. C'est-à-dire, toute l'année, on se sent un peu comme isolé. Les gens s'en rappellent plus ou ne veulent pas s'en rappeler. Ils nous disent que ça fait 4 ans, que c'est long, qu'il faut passer à autre chose. Donc, le fait que le 13 novembre arrive est déjà quelque chose qui est compliqué à gérer, parce que il y a le corps qui a une mémoire, il y a la tête qui a une mémoire qui se réenclenche à l'approche de cette date-là. Et le fait d'être beaucoup sollicité par la presse, qu'on nous demande énormément cette fameuse question à laquelle on ne sait pas répondre, qui est comment ça va, comment on se sent. C'est pas forcément simple, en fait. Ça participe, je pense, à cette espèce d'appréhension qu'on peut avoir de se demander qu'est-ce qu'on est devenu, comment on se sent, qu'est-ce qu'on fait de notre vie aujourd'hui. Et c'est des questions à laquelle, pour l'instant, on n'a pas de réponse.
Je comprends. Madame Langlade, quand vous étiez caché au Bataclan avec d'autres otages dans une loge, évidemment, vous saviez que la situation était extrêmement critique. Vous aviez conscience de ce qui se passait dans la salle de spectacle. Et vous avez déjà dit à Radio-Canada que ce soir-là, ce qui vous a sauvé la vie, c'est un film québécois, le film de Denis Villeneuve, Polytechnique. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi et comment ce film-là vous a sauvé.
Alors, c'est vraiment dans ma tête, à moi, donc c'est vraiment une perception qui est très personnelle et c'est comme ça que je l'ai vécu. Au moment où on a pénétré dans cette loge, où on s'est réfugié dans cette loge avec les 40 autres personnes, en fait, ma mémoire est passée en noir et blanc. Elle est passée en noir et blanc et...
Comme dans le film.
Oui, exactement. Mmh. Les images du film Polytechnique qui m'avaient beaucoup marqué lors d'un de mes voyages au Québec, que j'avais vu donc sur place, ces images-là me sont remontées. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué dans ce film. Je me rappelle notamment d'une scène où le preneur d'otages, le tireur, demande aux hommes et aux femmes de se séparer et de former deux groupes distincts. Et pour moi, en fait, la façon dont j'avais analysé cette image, enfin cette séquence, j'avais vraiment l'impression que si on restait vraiment dans le collectif, si on ne se dissociait pas à ce moment-là, si on restait tous ensemble, alors on aurait potentiellement la vie sauve. Là aussi, on agissait de façon individuelle, on risquait de mettre en danger les autres. Et donc, c'est vraiment cet esprit collectif qu'on a essayé d'entretenir pendant les 3h30 où on a été pris en otage, à prendre soin de chacun d'entre nous, les uns les autres. J'ai initié ça, mais il y a d'autres personnes qui ont pris le relais petit à petit, où à un moment donné, j'ai expliqué aux gens, vous êtes tous responsables de la personne à côté de vous, faites en sorte qu'elle aille bien. Et le fait de se projeter sur l'autre, je pense, ça a aidé vraiment à calmer son propre stress et nous a permis d'éviter quelqu'un qui pète un plomb à un moment donné et qui aurait pu ouvrir cette porte et finalement nous mettre en danger tous.
Est-ce que vous avez gardé un lien avec ces personnes? Ces 40 personnes avec qui vous étiez confinés dans une loge au Bataclan?
Alors, pas tous, parce que la vie reprend son cours et que, bon, on a chacun nos centres d'intérêt et tout. Mais une grande majorité, oui, c'est vraiment devenu des amis de cœur. C'est un peu devenu ma famille de cet événement-là. Et c'est des gens avec qui j'aurais pas forcément été amie avant. Parce que on n'a pas les mêmes idées, notamment des idées politiques ou les idées sur la vie, la culture et tout. Et finalement, ce sont vraiment devenus des gens qui sont très, très chers à mon cœur.
Ces attaques du 13 novembre 2015, on le sait, ont été commanditées par l'État islamique qui est maintenant en déroute. Il y a quelques semaines, les Américains ont abattu le chef de l'État islamique, al-Baghdadi. Je me demandais, comment vous avez reçu cette nouvelle-là?
Bizarrement, je l'ai pas vraiment reçu. En fait, à titre très personnel, je visualise un petit peu l'État islamique comme une espèce d'asticot, on va dire. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on coupe la tête, il y en a une autre qui repousse. Et j'ai l'impression que, pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à endiguer ce problème, qu'il y a aussi des choses qui doivent être faites au niveau de la politique sur nos territoires, que c'est un problème qui est très compliqué, qui a commencé il y a des années en arrière et qu'on n'a peut-être pas pris à temps. Donc c'est sûr qu'effectivement c'est un recul par rapport à l'État islamique, mais je suis très inquiète notamment de ce qui s'est passé avec le problème kurde, avec les prisonniers qui ont été libérés, où je me dis que là il y a vraiment du danger en ce moment par rapport à cette situation. Donc je suis pas sereine, quoi.
Caroline Langlade, vous avez été impliquée dans cette association là de rescapés de ces attaques du 13 novembre 2015, Life for Paris, et on parle de 130 morts directement après les attentats, mais on a aussi dénombré une 131e victime tout récemment, quelqu'un qui s'est suicidé. Parlez-moi de cette personne-là.
Alors, il s'appelle Guillaume. Ses parents, en fait, se sont battus. Ses parents sont des gens absolument extraordinaires que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Ses parents se sont battus pour faire reconnaître Guillaume comme une victime directe des attentats, parce que son suicide était réellement lié au problème de stress post-traumatique qui n'arrivait pas à être endigué. Donc du coup, ses parents se sont battus vis-à-vis de la justice française et ont obtenu gain de cause pour faire reconnaître Guillaume comme une victime directe des attentats. Donc ça, c'est très important. Ce combat-là, il est nécessaire parce que aujourd'hui, depuis les attentats, il y a une dizaine de personnes qui sont décédées, que j'ai eu à ma connaissance, mais il y en a sûrement plus, des gens qui sont morts de crises cardiaques, de maladies qui ont pu être créées à cause du stress post-traumatique. Ces gens-là ne sont pas reconnus. On a un vrai problème de prise en charge du stress post-traumatique en France. Et donc, du coup, à mon avis, les attentats du 13 novembre vont faire encore, malheureusement, beaucoup de morts dans le temps, quoi. C'est vraiment ce que je crains.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les années à venir, Caroline Langlade?
De l'apaisement. De l'apaisement, des projets. Surtout, je crois que c'est ça, la difficulté à laquelle je fais face, c'est la difficulté de se projeter. Je vis un peu au jour le jour depuis 4 ans. Et puis de la douceur, parce que ça manque beaucoup de douceur là depuis 4 ans, donc ça me ferait bien du bien.
Ben écoutez, on vous souhaite des projets et de la douceur, Caroline Langlade.
Merci beaucoup.
Merci. Caroline Langlade est cofondatrice de l'association Life for Paris. Elle nous parlait depuis Paris. C'est une ancienne otage en cette nuit épouvantable au Bataclan le 13 novembre 2015. Ce sera demain, les 4 ans de l'attaque à Paris en 2015.